Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci d'être là pour sur cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Notre souci aujourd'hui, c'est que l'Afrique soit respectée comme continent. Nous ne voulons plus que quelqu'un nous voie d'en haut. Ce sont là les propos de Robert Duché, ministre des Affaires étrangères du Togo, tout récemment en Allemagne, lors d'un symposium sur les 140 ans de la conférence de Berlin sur l'Afrique. Que vous inspirent ces propos de Robert Duché et l'Afrique n'a-t-elle plus besoin vraiment d'aide, comme le stipule le ministre alors des Affaires étrangères du Togo? Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 7 février 2025. Bienvenue au Club. À la coordination, à l'heure de cette émission, Kiki Chaussette à la mise en onde, Jérôme Akouta sur la mise en ligne, je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix, nous sommes à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et là, bien sûr, plus précisément à Baga, et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrère Firmin Kouagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, j'ai bien, on a passé...
Et la semaine, comment vous l'avez passée?
Ouais, on a passé une semaine un peu mouvementée, mais gloire soit rendue à Dieu que tout s'est bien passé. Dieu a été avec nous, et si nous sommes ici, c'est parce que Dieu, naturellement, voudrait qu'on dise quelque chose. Vous savez, je le dis toujours, nous sommes aussi dans notre sang pour le cultiver. Chacun, lui, quelque chose de divin. Donc, ce quelque chose de divin, c'est ça que nous sommes venus partager avec tous ceux-là qui vont nous écouter. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion pour demander à tout le monde, ceux-là qui vont appeler surtout, d'avoir un peu plus de tolérance dans leur langage. Parce que quand nous venons ici, ce n'est pas pour être contre X ou contre Y. C'est la démocratie, c'est le débat. Moi, je ne viens pas ici pour que les gens soient d'accord avec moi. Mais je viens ici pour dire quelque chose d'utile et quelque chose d'objectif. Donc, on vient pour aider à la construction de ce pays.
Gabé Andiaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et aux éditeurs de la meilleure radio Canal FM. Nous sommes encore là ce vendredi pour parler de l'actualité nationale et internationale.
Tout à fait.
Et vivement que tout le monde puisse trouver à sa part, comme on le dit toujours, et l'a dit le regretté Monseigneur Nicodème Anani Bariga, que chacun fasse sa part. Je pense que nous faisons notre part. Aux autres Togolais d'arriver aussi à faire leur part, et surtout qui est de l'acceptation de tout un chacun.
Et comme le disait tout de suite Firmé, qui est de la tolérance.
Qui est de la tolérance, parce que moi, votre émission d'hier, je l'ai suivie de bout en bout, et puis j'ai écouté certains intervenants, les auditeurs, sincèrement, ça m'a laissé pantois. Je me suis posé la question de savoir si nous sommes toujours dans ce même Togo là, et puis certains ils viennent toujours avec un langage d'ethnicisme, d'ethnocentrisme surtout. Je m'adresse, je vais le citer nommément.
Non, ne citez pas, okay. Il n'y a pas de souci.
Donc je vais pas lui répondre, mais je suis celui qui va encore appeler, et puis on va en parler pour clore cela, parce que on est dans un pays où on prône la concorde nationale, la réconciliation. On ne va pas toujours faire en sorte que les efforts du gouvernement, du chef de l'État soit tombé à l'eau.
D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'avez si bien dit, ce débat, le débat contradictoire, je pense que ça fait partie même d'ailleurs de la démocratie. Et nous devons avoir surtout de la tolérance à l'égard de l'opinion de l'autre. Et quand l'autre réagit et que nous, peut-être, nous réagissons autrement, ça aussi, ça contribue à la diversité des opinions. Et c'est ce que nous voulons alors sur ce plateau. C'est très important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Kofi Annani. Kofi, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs. et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
La grâce de Dieu est toujours.
C'est ce qui est très important. La grâce de Dieu est toujours. Et cette grâce, nous demandons que c'est, qu'elle surabonde alors sur nous.
Ah oui. D'accord. Notre prière de tous les jours.
Voilà. Je ne sais pas si la grâce surabonde sur Antacol, mais ce qui est sûr, je lui ai dit cela tout de suite au micro. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je parlais de la grâce qui surabonde. Je vous le disais au micro tout de suite que je vous vois toujours jeune. Je ne sais pas ce que c'est que votre secret. C'est quoi concrètement, Anta?
Je vous ai soufflé à l'oreille tout à l'heure qu'il va falloir beaucoup prier. Donc quand on parle de la grâce, on sait d'où vient la grâce. Donc effectivement, j'ai beaucoup de grâce dans ma vie.
Vous avez assez de grâce dans votre vie.
On n'en a jamais assez, mais j'en ai suffisamment. J'en veux encore. Hein. Elle se renouvelle, non? La bonté tous les matins.
Tout à fait.
Voilà.
Tout comme on le disait à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Je ne sais pas si la grâce de Dieu vous suffit également.
Largement.
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 D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Antacol. Oui, vous êtes artiste. On vous connaît bien sûr sur la scène musicale. Et je sais que vous avez un nouveau bébé, une nouveauté par rapport à votre carrière musicale. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette nouveauté que vous avez, Anta?
J'ai entendu l'introduction tout à l'heure, si vous permettez, des uns et des autres.
Tout à fait, allez-y.
Ce qui m'a plu d'entrée de jeu, c'est que on parle de la tolérance. On parle de, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais dire les choses aussi avec courtoisie, avec fermeté et avec respect aussi. Donc, je veux dire que dans les morceaux que moi je crée, c'est-à-dire que mes inspirations touchent la société et mes inspirations sont censées apporter de l'apaisement ou une forme de solution à qui traverse cette situation concernant ce que j'évoque dans les chansons. Donc nous sommes aussi pas forcément comme je suis entourée de plein de journalistes ici, mais nous sommes aussi des messagers et dans ce que nous envoyons, on est censé que c'est aussi au-delà du plaisir, au-delà de ce qui peut être ludique par moment, nous sommes aussi chargés d'apporter notre graine de semence ou d'éducation ou d'interpellation ou que ce qui fait réfléchir. Donc voilà, moi dans avec mon expérience aussi et dans l'évolution de mes compositions, je touche à des sujets comme ça. Avec la grâce au milieu.
Avec la grâce au milieu, ça fait toujours plaisir d'écouter cela. C'est toujours avec la grâce au milieu. Alors, vous êtes même actuellement en tournée. Et concrètement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre alors de cette tournée que vous effectuez en tard?
Alors déjà, je reprends contact hein, parce que c'est vrai que depuis quelques années, je viens discrètement, je fais des choses, mais je dis rien. Et je me suis dit, il est temps aussi d'apporter ouvertement ce que je suis en train de mettre comme semence sur la terre togolaise. Et puis en même temps, voilà, cette tournée de médias que je fais depuis que je suis arrivée, c'est préparer aussi le sol, comme ferait un paysan, hein, préparer la terre, tourner la terre, faire ses sillons et attendre la première pluie pour mettre la semence et espérer que voilà la pluie sera abondante et que ça va fleurir. Je reviens juste reprendre là où on s'est arrêté.
Et concrètement, où est-ce que vous vous êtes arrêté?
Bon, on avait commencé à Chekelo et entre-temps, on a fait plein de choses, mais je vais sauter les étapes. On est arrivé à la caravane d'Afrique qui s'est déroulée à Dapaan et l'apothéose au Togo. Et comme je disais aussi, le concept de la caravane d'Afrique au Togo, il faut s'adapter aussi à la réalité de chaque terrain quand j'y vais. Donc l'expérience que j'ai eue pendant cette caravane d'ailleurs, qui était un succès, j'ai compris que par rapport au Togo, si je vais implanter la caravane d'Afrique, il va falloir que je mette d'autres stratégies et fonctionner différemment. Ce qui va m'amener à mettre en place un projet dans la région des plateaux et dans la savane, où nous sommes en train de nous installer. La caravane d'Afrique aura bientôt un domaine physique qui pourra accueillir, recevoir et partager aussi Je veux que ça commence par le Togo parce que c'est mon pays. Ce pays m'a beaucoup donné. Donc, je me sens redevable.
Oui, justement, redevable. Alors, justement, parlons de cette caravane d'Afrique. C'est vrai, on l'a connue de par le passé. Vous avez signifié cela tout de suite. Concrètement, pour vos fans, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre hein, par rapport à la prochaine édition de cette caravane?
Ben déjà, ils doivent s'attendre, vous savez, à l'intérieur d'ailleurs de la caravane d'Afrique, je mets en avant la convivialité, le respect mutuel et le respect dans tout ce qu'on on crée également. Vous imaginez que je sorte une chanson qui fait succès, mais je dis à peu près ce qui n'est pas éducatif aussi pour nos enfants, pour la société, et je pense que rapidement ça va faire grincer les dents. En tout cas, moi-même, par rapport à mon éducation, par rapport à mon parcours, il y a des choses que je ne peux pas présenter, par rapport à ma foi surtout aussi. Hein. Donc, ils doivent s'attendre à ce partage que, je dis, si le Togo reçoit la caravane d'Afrique, mais dans cette réception, la caravane d'Afrique recevra sur son domaine les compatriotes. Donc, ils doivent s'attendre à un espace qui se veut respectueux, qui se veut culturel, qui se veut thérapeutique, puisque à l'intérieur, la caravane d'Afrique, c'est juste l'autre version de moi, de ce qui bouillonne en moi, de ce que je crée, de mes inspirations, qui par moments, au commencement, qui étaient divines. Donc, je vais sur le terrain, j'ai pas mal de veuves et d'orphelins que je visite sur le terrain quand j'arrive. Je suis dans l'agriculture également et les récoltes sont distribuées à ces personnes que je rencontre. Bon, tout ceci, je l'ai fait discrètement, mais bon, il est temps maintenant d'en parler.
Mmh. Alors, c'est quoi la place de l'Afrique, puisqu'on parle alors de la caravane d'Afrique, et c'est quoi la place de l'Afrique dans votre cœur?
Je pense que l'Afrique, mon cœur n'est pas assez grand pour contenir toute l'Afrique, mais je pense que quand on dessine par exemple la carte d'Afrique, hein, la carte d'Afrique sans Madagascar n'est pas Afrique, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Voilà. Donc aussi petit que peut être le cœur, et si ce cœur-là qui va, je mets un cliché, hein, qui va être comme Madagascar. Donc, mon cœur est comme ce Madagascar qui va manquer à l'Afrique. Et quand on dessine la carte d'Afrique sans ce Madagascar, l'Afrique n'est pas au complet. Humblement, je le dis, parce que j'estime que le Créateur a mis des choses en moi, des dons en moi, des talents en moi, que je ne voudrais pas un jour partir et que tout le monde dira, ah, Mtaïko est parti, on va voir des gros gerbes, on va voir des messages qui vont circuler sur les réseaux sociaux. J'aime autant que le jour que je partirai, que quelque chose reste. Et que au lieu qu'on distribue les messages qui vont être peut-être négatifs, que quelque chose de positif reste. Mmh. Voilà. Donc l'Afrique est tellement, je traîne l'Afrique dans mon dos, mais vous voyez la grandeur de l'Afrique, c'est tout un continent. Donc mon cœur est tellement petit. En forme très petit, mais en esprit très grand pour l'Afrique.
Tout à fait. Vous l'avez si bien dit que peut-être déjà sans votre cœur, l'Afrique n'existera peut-être pas, comme déjà on parle alors du Madagascar, et que sans l'Afrique, sans Madagascar, peut-être ça n'existe pas. Alors finalement, c'est quoi l'actualité dans ta crawl aujourd'hui?
Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tours médias, c'est pour préparer un nouveau bébé qui est en train d'être mijoté là actuellement de l'autre côté de Cotonou, que je vais pas tarder à prendre la route d'ailleurs. Et deuxièmement, c'est pour essayer de revenir juste prendre ma place. Et aussi, ça fait des années que j'ai quitté le Togo, mais bon, mon pays m'appelle dans mon âme et dans ma conscience. On est parti, on a acquéri des choses, on a acquéri de l'expérience, des talents, et j'estime que il faut revenir partager tout ça avec les frères et les sœurs, mes compatriotes. Dans cette actualité, je travaille beaucoup avec le Bénin. Mais mon cœur serait plus en paix de savoir que j'ai déjà ancré quelque chose dans le Togo, qui est mon pays. Parce que j'ai beau faire l'Allemagne, j'ai beau faire la France, j'ai beau travailler avec le Bénin et autres, mais qui est cette personne qui montre son pays de la main gauche?
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Mmh. Donc c'est cette conscience là qui fait que je tiens aussi dur que ça peut paraître des fois, parce que j'avoue, quand on a passé beaucoup d'années à l'extérieur comme ça et que l'on revient, des fois on perd tout son carnet d'adresses, des fois on n'a pas d'autres contacts, des fois ceux qui étaient là ne sont plus là, il faut tout recommencer, il faut tout créer. Et puis des fois aussi, il y a certaines frustrations. Quand on est là-bas, on nous dit des étrangers. Quand on vient ici, on nous dit « il vaut des taux », vous voyez.
Donc... Finalement, vous ne vous retrouvez plus. ça fait plaisir de vous recevoir un tas. Et c'est vrai que je sais que quand on parle de femmes, c'est l'amour. Et chaque 14 février, l'amour est célébré. Et l'amour est célébré, il y a un événement également. Alors sur cet événement, sur cette journée. Et vous connaissez bien sûr Jackie Rapon. Jackie Rapon sera à Lomé. Ceux qui organisent l'événement sont avec nous. Lionel, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien, Lionel.
Je vais bien, et chez vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu. Mais moi, ma question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui motive le fait que vous faites venir une telle légende? Je veux bien parler alors de Jackie Rapon à Lomé.
Alors, personnellement, Jackie Rapon, c'est un artiste que moi j'adore depuis mon adolescence. Et j'ai eu à rencontrer un ami qui partageait le même amour pour lui. Donc ensemble, on s'est dit, bon, quand on le pourra, on va organiser un concert de Jackie Rapon. Donc depuis 4 ans, on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Et cette année, par la grâce de Dieu, ça sera fait.
Et ça sera fait, Jackie sera le même. L'événement, c'est bien sûr le 15 prochain.
Exactement, le samedi 15 février, à partir de 20h.
À partir de 20h. Alors concrètement, puisque vous êtes même à la base alors de cette organisation, qu'est-ce qui sera passé, enfin, qu'est-ce qui sera fait, ou comment ça va se dérouler, cet événement? Ce serait à l'hôtel de Février.
L'hôtel de, exactement. Donc voilà, c'est le samedi 15 février, à partir de 20h à l'hôtel de Février. Et ça sera une soirée dîner gala. Avec la présence de Toto Patrick, de Mirlenda, et les tickets d'accès sont à 50 000 pour le solo, 90 000 pour le couple et 150 000 pour le VIP couple.
Alors, la soirée, comment ça va se dérouler? Je vous posais la question tout de suite. C'est vrai, est-ce que quand Jackie sera là, il va chanter, il prendra alors la scène pour chanter jusqu'à ce qu'on donne la place à Toto Patrick et aussi à Mylenda, ou bien comment ça va se passer?
Ok, bon, comme je le disais aussi tout à l'heure, la soirée va débuter à partir de 20h avec un groupe, un orchestre qui sera là pour le début de la soirée. Après, il y aura une deuxième partie pour les artistes togolais. J'ai Toto Patrick et Mirlenda. Et en fin de soirée, il y aura Jackie Rapon pour 1h30 de scène.
Actuellement, Jackie est à Cotonou, puisqu'il y a un événement à Cotonou d'abord avant de venir à Lomé, c'est bien ça?
Exactement. Jackie, il arrive à Cotonou le mardi et il sera à Lomé le samedi.
Je serai à Lomé le samedi. Si vous avez peut-être alors quelques mots pour encourager les uns et les autres à venir, et qu'est-ce qui doit être alors ces mots?
Alors ben, je vais solliciter les gens, je vais les appeler à venir, tous ceux qui aiment l'amour, tous ceux qui aiment Jackie Rapon, à venir le célébrer tous ensemble ce samedi 15. Et ça sera un événement sensationnel.
Ce sera vraiment un événement sensationnel. Merci d'être passé alors dans cette émission. Anta, et finalement, tel que je le disais, la femme, c'est aussi de l'amour. Donc, le rendez-vous, c'est le 15 avec Jackie Rapon.
Oui, alors moi, je vais leur souhaiter une belle soirée. Et je vais leur souhaiter que la salle soit comble et je vais leur envoyer plein de cœur, plein d'amour, simplement parce que moi je ne serai pas sur le terrain. Et là tout à l'heure, Jackie répond à Cotonou, là quand il va arriver à Lomé, moi je serai à Cotonou et puis de Cotonou je reviens.
Non, il n'est pas encore à Cotonou,
c'est le mardi.
Ok, bon, moi demain déjà je suis à Cotonou, je suis en studio en ce moment et j'ai aussi un tournage de mon nouveau bébé qui arrive. Et donc d'ailleurs le 14, comme on le dit, hein, le jour de la, je vais pas dire le nom, vous voyez, de l'amour. Le jour de l'amour, moi, je serai en train de survoler le continent parce que je dois repartir rapidement.
D'accord.
Mais pour revenir aussi dans pas longtemps. Donc, sinon, je serais venu vous soutenir.
D'accord, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir.
Ça me fait plaisir aussi. Merci de m'avoir reçu.
Voilà, si vous avez quelques petits temps, vous pouvez rester avec nous pour suivre nos débats ici au Club de la Presse.
Je reste avec vous.
D'accord,
jusqu'au bout.
Ça nous fera plaisir.
Jusqu'au bout.
Justement, alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour parler de nos sujets, bien sûr, nos sujets d'actualité, tels qu'évoqués surtout par des journaux. Aujourd'hui, il y a le journal, bien sûr, le journal du Togo, qui écrit Téléphonie mobile au Togo, le dol de Miss Bayas, mise à nu et décriée par la clientèle, le piège à con des malgaches. C'est ce que le journal écrit. Et le journal écrit par rapport à un certain nombre de choses, bien sûr, concernant surtout cette gratuité des frais de transport qui a été annoncée tout récemment. Et le journal écrit, bien sûr, que dans l'ancienne formule, il faut 250 francs à un CFA pour retirer 10 000 francs. CFA, aujourd'hui, avec ce que les premiers responsables de IAS appellent gratuité, ce montant sur les 10 000 francs CFA est passé à 300 francs, comme si les Togolais sont des dupes et qu'ils alors ne savent pas faire la différence. C'est ce que je lis, bien sûr, ce que le journal a écrit. Alors, Gabin, finalement, quand on prend cela aujourd'hui, il y a des gens quand même qui observent que sur les frais de transfert, il y a cette augmentation, tandis qu'on nous parlait alors de la gratuité.
Oui, c'est ce qu'on nous avait dit entre-temps, hein, par le biais du service de communication du IAS. Et on nous avait dit que, bon, voilà, quoi, les frais de transfert, on ne prélève plus, c'est à zéro franc et tout. Mais à chaque fois que tu émets un transfert, tu te rends compte que, bon, il y a eu un prélèvement et même beaucoup plus que ce qu'on te prélevait avant. Et moi, je me suis posé la question de savoir est-ce que... on nous a pas dupé. Et beaucoup de Togolais, il y a tellement de personnes qui sont en train de faire des vidéos, même des artistes comédiens sont rentrés dedans, ils font des vidéos pour dénoncer ce tas de choses. C'est assez compliqué d'arriver quand même à gérer, hein, ces services là d'autant plus qu'il y a pas de concurrence. Le seul concurrent, c'est l'autre société Move, qui est là avec son service Flows. Les Togolais beaucoup plus ont cette tendance là à faire confiance à des sociétés de téléphonie mobile que l'ARCEP, la plupart du temps, a toujours essayé de ramener à l'ordre, mais on se rend compte que ces sociétés-là trouvent toujours des voies de contournement pour pouvoir nous piller. Et comme on n'a pas la culture, hein, de porter plainte au niveau des associations de consommateurs et tout, c'est assez difficile d'arriver quand même à s'en sortir. Peut-être on va crier, mais si l'ARCEP ne fait rien, peut-être on va même amender cette société-là pour verser des dommages et intérêts. Mais après, est-ce que ce sont les pauvres populations? Moi, si par exemple on me prélève 350 francs ou bien 300 francs sur les transferts que j'ai eu à faire et que au fil du temps, vu les décomptes, peut-être je me retrouve avec une perte de 3000 francs, est-ce que on va me reverser les 3000 que moi j'ai perdu? Non, ce sera dans les caisses de l'ARCEP. Donc à un moment donné, je pense que ces sociétés-là doivent arriver à nous prendre au sérieux. J'avais dit qu'il n'y avait pas véritablement de raison pour une modification de dénomination sociale. Je l'avais dit, je l'avais expliqué par des arguments juridiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que véritablement, bon, il n'y a rien qui a changé, hein, dans le traitement des clients. Et c'est resté même et même pire. Les Togolais en subissent les conséquences, vu déjà que, bon, on n'a pas tellement trop de moyens dans le pays, mais ces sociétés-là continuent par nous piller. Aucune explication, parce que les faits sont là. Je sais que leur service de communication va sortir pour faire des contorsions, pour nous donner des explications. Même leur service commercial va nous donner des explications bizarres. Mais les faits sont là. C'est que quand tu fais un transfert aujourd'hui, on te prélève plus de l'argent, plus de frais qu'on le prélevait quand on était sous Togocom. Donc, je pense que c'est un marché de dupes. Moi, j'avais lu le truc sur leur compte Facebook. Je me suis dit, bon, alors là, on est en train de progresser. Mais dans les faits, c'est carrément autre chose. C'est de la fourberie qu'on nous a servi. Et il va falloir que ces gens-là se remettent en cause. Et surtout que l'État essaie de tout faire pour pouvoir protéger les citoyens contre cet état de choses. Et aussi aux associations de consommateurs. Parce que depuis que cette situation-là prévale, on n'a pas vu des associations de consommateurs, l'ATC, LCT de Sougadi, oui, se pointer pour nous dire quelque chose. Ils n'ont absolument rien dit jusque-là. Or, il y a certaines situations qu'il faut prendre avec promptitude. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'État puisse réagir. Mais jusque-là, on n'a aucune nouvelle de ces associations de défenseurs des consommateurs. On attend encore, peut-être d'ici lundi, on va les écouter. Mais en attendant, il va falloir que l'État prenne les mesures par le biais de l'ARCEP.
D'accord. Oui, mais Koufi, quand on voit la situation telle que cela se passe, on nous a promis une gratuité, mais finalement, c'est plutôt une augmentation. Là, c'est la population, ou du moins, c'est les consommateurs qui pèsent.
Pascal, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une mauvaise appréhension du communiqué qui a été donné au tout début. Moi, j'ai cru comprendre que là où la gratuité intervient, c'est plutôt au niveau des transferts. Parce que nous avons la différence entre les transferts et les retraits.
Tout à fait.
Au niveau des retraits, les frais sont maintenus et au niveau des transferts, on retire les frais. Je n'ai pas essayé de transférer de l'argent à quiconque depuis ces jours-là, donc je ne saurais dire si on applique toujours des frais au transfert ou pas. Alors, si des frais sont toujours appliqués et au transfert et au retrait, je pense que, encore une fois, nous sommes victimes de l'escroquerie. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi ? À quoi sert l'État dans un pays ? L'État sert à protéger les citoyens démunis, les citoyens pauvres qui n'ont pas de recours, qui n'ont personne pour les sauver en cas de problème. L'État sert à les protéger de ces gens-là qui se disent plus aisés, qu'ils ont plus de moyens et qui se permettent de faire ce qu'ils veulent. Nous avons récemment connu l'ARCEP, la RCEP, voilà, qui se charge ou bien qui se dit garant de la protection des citoyens, des consommateurs en termes de téléphonie mobile. Nous avons à un moment donné vu.
C'est beaucoup plus un organe de régulation. Hein.
Voilà, c'est un organe de régulation.
Oui. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, ils n'auront rien à faire dans cette situation-là? Est-ce que c'est juste pour réguler en termes de conditions d'implémentation, en termes de conditions de travail au niveau des compagnies de téléphonie mobile? Est-ce que ce dont nous plaignons, les Togolais se plaignent aujourd'hui, on nous a dit, bon voilà, on retire les frais de transfert, ouais, mais dans la réalité, nous payons plus que ce qu'on payait avant. Est-ce que l'ARCEP ne peut rien faire par rapport à cela? Je ne sais pas. Mais je pense que...
Mais c'est le rôle de l'ARCEP quand même de faire quelque chose.
Alors, si c'est ça, il faut que dans une certaine urgence, il faut que cet organe-là puisse intervenir pour sauver les Togolais. Parce que ce dans lequel nous nous sommes mis actuellement, là, ce dans quoi nous sommes, ça pourrait durer et ça pourrait encore compliquer davantage les conditions de vie des citoyens togolais.
D'accord. Oui, mais c'est vrai que quand on voit la situation économique, des gens se plaignent même d'ailleurs déjà de cette situation économique. Et quand on fait peut-être alors des transferts et qu'on doit augmenter encore les frais de ces transferts, est-ce que ce ne serait pas trop pour le citoyen?
C'est déjà trop. Même il y a cet exemple-là, Cashpawa. Avant Cashpawa, vous le faites avec Timoni, c'était gratuit. Maintenant, aujourd'hui, 1000 francs, c'est 150, si ils prélèvent. C'est trop déjà. Donc, il faut que... Moi, je trouve que la société devrait en être tenue compte un peu de la situation financière des Togolais avant de pouvoir fixer les prix. par exemple, 10 000, vous voulez envoyer 10 000 à quelqu'un, vous le retirez 10 000, c'est des frais de trop, en fait. Donc, avant, c'était un peu moins par rapport à ça. Il faut qu'on tienne compte de la situation. Parce que quand on ne tient pas compte de la bourse des Togolais et qu'on fixe des prix n'importe comment, moi, je pense que ça pèse énormément. Ce pourquoi les gens en parlent, c'est parce que ça pèse sur eux. Du moment où difficilement l'argent circule. Moi, je donne toujours l'exemple de cash power. Vous n'avez que 1 000 francs. Alors que quand vous aviez 1 000 francs, vous faites cash power, vous ne payez rien. Maintenant, on en prélève 150. Ça veut dire que votre cash power va être limité à 850 francs. Donc, c'est déjà trop. Moi, je pense qu'il faudrait nécessairement ou sincèrement, avec beaucoup plus de responsabilité, tenir compte de la bourse des Togolais avant de pouvoir fixer les prix.
Mmh. Oui, d'abord, intéressons-nous à un autre sujet, au sénatorial. Nous sommes en pleine campagne, mais toujours est-il que ça ne se sent pas que nous sommes en campagne.
Oui, ça ne se sent pas que nous sommes en campagne, c'est parce que c'est dirigé vers les grands électeurs. Nous ne sommes pas concernés, c'est pas nous qui allons voter. Donc, et ceux-là qui sont même des candidats ne font pas ce devoir de pédagogie.
Là, est-ce que ça veut dire que ces élections n'ont pas d'enjeu en tant que tel?
Ça relève beaucoup d'enjeux. Sauf que bon, c'est pas la basse population qui va aller voter. Ce sont des grands électeurs, comme le dit dans certains pays, hein, c'est-à-dire les conseillers régionaux et municipaux, qui sont déjà des élus, donc l'émanation de la population qui vont aller voter en lieu et place de la population, parce que la population leur a déjà donné mandat d'agir en leur faveur. Donc, tout ce qu'on peut reprocher, c'est au niveau des candidats, c'est aux candidats d'arriver à faire un travail de pédagogie au niveau de la population pour leur dire que non, malgré que vous ne votiez pas pour nous, nous allons vous représenter, voilà quels sont nos devoirs et quelles sont ces choses-là que vous pouvez espérer d'un Sénat. Donc, je pense que ils ne le font pas parce qu'ils se disent bon, ce sont pas les populations qui vont aller voter pour nous. On a déjà les grands électeurs, donc mieux vaut faire des rencontres B2B avec ces grands électeurs-là pour avoir leur assentiment au vote. Donc je pense qu'ils consacrent beaucoup plus leur énergie dans cette optique-là. Il y a les candidats de Lomé, beaucoup de personnes se rencontrent dans les hôtels, d'autres à 2 février, au niveau d'un erreur.
Ce sont
des campagnes sectorielles,
ouais,
en fait.
Ouais, est-ce que ça veut dire qu'il y a finalement des négociations dans cette question alors sénatoriale?
Je vais t'étonner parce qu'hier j'ai eu à discuter avec un candidat à ces élections-là et j'ai écouté des choses qui, ma foi, ça m'a un peu fait rigoler. Je me pose la question de savoir est-ce que les gens savent réellement le rôle qu'ils vont aller jouer au Sénat là-bas, parce que nous sommes dans une république où on parle de démocratie parlementaire. Il va falloir tout faire pour que les députés et les sénateurs aient assez de pouvoir de contrôle sur les actions de l'exécutif. Sauf qu'ici, je pense que les gens cherchent beaucoup plus de postes. Et quand je vois quand j'ai écouté ce que ce candidat-là m'a dit, il a raconté plein de choses comme quoi, bon, certains grands électeurs sont en train de réclamer des choses. Si tu y vas, quelle sera ma contrepartie? Alors qu'en temps normal, c'est le projet que la personne porte qui doit beaucoup plus inciter le grand électeur là à voter pour lui, mais il passe beaucoup plus à des émoluments, à de l'argent. Qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que peut-être si tu auras des émoluments de 1 300 000 par mois, les trois premiers mois, tu vas me verser les 300 000 francs, ainsi de suite. Ce sont ce genre de choses que un candidat à ces élections-là, je ne vais pas dire dans la zone où il est candidat, mais c'est ce qu'un candidat a eu à me dire. Donc, je pense que il va falloir être assez sérieux parce que nous sommes dans une situation où le peuple attend beaucoup de ce régime parlementaire-là, puisqu'on nous a promis que, bon, voilà, c'est pas le régime parlementaire, il y aura une gestion beaucoup plus assainie des deniers publics, il y aura beaucoup plus des yeux regardants du Parlement, ou bien que ce soit de l'Assemblée, c'est-à-dire la haute chambre et la chambre basse sur la gestion qui sera faite des ressources de l'État et tout. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question sur quand même la qualité de ces gens-là qui iront représenter les citoyens au Sénat, quand on sait très bien que dans nos pays aussi, surtout au Togo, les gens défendent beaucoup plus leur parti politique. Il y a beaucoup plus cette envie-là de défendre leur parti politique, de faire en sorte que bon, l'image de leur parti politique soit polie avant de penser aux intérêts du peuple. Donc, à un moment donné, peut-être que ceux que le chef de l'État va nommer, les 20 autres que le chef de l'État va nommer, ils vont apporter beaucoup plus que ceux-là qui vont à ces élections-là. Moi, à l'allure vont les choses, je ne fonde pas tellement, tellement d'espoir parce que on nous a pas amené d'autre part pour venir ici. On est né au Togo, on a vécu au Togo, on sait comment la politique togolaise fonctionne. Et à cette allure, je ne suis même pas sûr qu'on aura de véritables débats que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'il y a certains qui sont déjà des maires, qui se sont portés candidats à ces élections-là. Certains sont déjà des députés, mais se sont encore portés déjà candidats à ces élections sénatoriales. Je me demande finalement à quoi on joue, alors que le décret portant quand même ces élections municipales et sénatoriales-là avait stipulé que les jeunes à partir de 35 ans pourraient aller au Sénat. Puisque nous sommes dans un régime parlementaire, on aurait pu amener certains jeunes au Sénat qui vont avoir ce dépôt d'énergie-là, de travailler pour la nation, de poser de réelles questions. Et sincèrement, moi, je suis un peu déçu. D'accord. Pour le moins. Peut-être que bon, ils vont me démentir par le biais.
D'accord. Je ne sais pas si Firmin aussi est déçu. Mais Firmin, je rappelle que en début de semaine, il y a Madame Kafui Brigitte Adjamabo Johnson, la coordonnatrice alors de la DMP que nous avons reçue dans cette émission Club de la Presse, qui dénonçait ce qu'elle appelait l'achat de conscience et l'achat de conscience surtout à l'égard des électeurs qui sont de l'opposition. Et finalement, il y a Maître Tchassona également qui répondait sur une autre radio que mais finalement c'est plutôt les électeurs qui leur proposaient, qui proposent plutôt de l'argent et c'est autre alors aux candidats à ces élections. Mais finalement, on ne comprend plus rien là.
Non, qu'est-ce que vous voulez comprendre? C'est ça la politique. Moi je ne propose rien. Vous savez, depuis un moment, quand je réfléchis, je suis un peu les choses. Je ne critique plus ces genres de choses. Parce que j'ai finalement compris qu'en politique, il y a tout. Quand on parle de la politique, même de la façon la plus profonde, il y a tout. Quand Mme Brigitte Adjimagbo parle d'achat de conscience, aux États-Unis, tout récemment, il y a eu achat de conscience. Les Elon Musk, tout ça, là, ils ont acheté des consciences. Donc, aujourd'hui, la politique, c'est déjà...
Mais c'est pas quelque chose à encourager, quand même.
Non, ce n'est pas encouragé, mais bon, on ne peut pas... on peut l'interdire, mais ça va toujours se faire. Parce que depuis au 20e siècle, on reproche aux Africains d'acheter les consciences. Mais au 21e siècle, dans l'une des plus grandes démocraties au monde, on peut acheter les consciences facilement. La politique, c'est une question d'argent. Quand on dit les électeurs proposent de l'argent et tout ça, bon, au fait, moi, je ne critique pas trop ça, mais sauf que c'est peut-être le thème. Peut-être on peut le dire de la façon la plus esthétique. La plus esthétique, pourquoi on ne sent pas que c'est de l'argent? Parce que ici, dans ces élections-là, c'est une question de négociation. Parce que si on ne veut pas négocier et on veut aller de la façon la plus logique possible, Unis bat tout rafler à cette allure-là.
Mais si nous parlons de négociation, est-ce que là, nous parlons encore d'élections?
Non, c'est sans élection, c'est la politique au fait. Bon, je te donne ceci, mais en contrepartie, j'ai ça.
Mais on doit être libre quand même à choisir quand il y a élection.
Vous voulez être libre où? Il n'y a pas, vous voulez être libre. En fait, moi, je ne voudrais pas que les gens rêvent. Dans ce genre d'élection, au niveau du Sénat, ben, Gabin a sorti quelque chose d'important. Est-ce que les gens savent pourquoi ils vont à ces élections? Moi, je pense que c'est la première des choses qu'on doit avoir. Est-ce que les gens savent le rôle du sénateur? En réalité, il faut que les gens sachent qu'en réalité, pour ces élections sénatoriales, les sénateurs viendront corriger en quelque sorte les inégalités. Par exemple, quand on vote une loi à l'Assemblée nationale, on envoie ça au Sénat, puisque les sénateurs représentent les préfectures. Chaque préfecture a un sénateur, n'est-ce pas?
Oui, bien.
Chaque préfecture a un sénateur. Donc, quand la loi tombe sur la table des sénateurs, eux, ils vérifient un peu, ils voient si ça tient, ça respecte la règle de droit, si ça répond un peu aux inégalités.
La constitutionnalité quand même de la loi. Eux, messieurs, sont eux qui vérifient quand même la constitutionnalité de la loi avant que de...
Oui, et maintenant, eux, ils voient, et s'il y a des inégalités, peut-être par rapport à leur préfecture et autres, et c'est là où ils appellent à corriger ça. Donc, c'est ça la première idée. Avant de parler de ce qu'on va gagner et tout ça. Donc, si on n'a pas ça, on a vu des gens qui sont devenus maires dans ce pays, mais qui ne savaient même pas ce à quoi ils étaient appelés. Donc je pense que c'est la même chose. Mais en ce qui concerne l'argent, tout ça, donc ils le disent de la façon la plus brutale, la plus violente, mais moi je pense qu'ils ont, je ne leur donne pas tort. Ils ne leur donnent pas tort. Et si les gens ils n'ont rien, ils viennent en politique juste pour avoir une santé financière. Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est ça que moi je reproche à nous Africains. En réalité, on ne rentre pas en politique pour avoir de l'argent. On rentre en politique parce qu'il y a un problème, on vient pour apporter des solutions. Or, et après, on peut gagner. Maintenant, ici, on a inversé le rôle. Mais ici, en Afrique, on rentre en politique pour avoir de l'argent. On rentre pour étudier pour avoir de l'argent, ensuite qu'on sait le travail, on s'en fout, en fait. C'est ça qui fait que nos pays n'arrivent pas à se développer. Il y a déjà, par exemple, quand vous parlez, vous voyez Barack Obama. Quand Barack Obama, dans les années 90, quand il était étudiant, on a vu ce qu'il a fait. Et après, quand il est devenu sénateur, on a vu ce qu'il a apporté aux Noirs. Vous imaginez, moi, je me rappelle, j'ai suivi un de ces trucs où, arrivé à un moment donné, sa femme disait, mais on a tout dépensé, on s'est endetté. Mais on gagne quoi dans tout ça, dans ce que tu es en train de faire? Mais il a dit, arrête, au moins, on arrive à apporter quelque chose à l'humanité, aux Américains, aux Noirs. Et autre, et la femme dit, ok, je te donne une dernière chance, c'était leur convention de 2004. Si tu arrives à t'en sortir, alors je te suis. Donc, elle a réussi, il a réussi avec brio son intervention. Et voilà, 4 ans après, il est devenu président des États-Unis. Donc, même avant cela, il avait quand même le minimum. Vous imaginez, il venait, il cherchait pas à être président pour avoir de l'argent. Il cherchait pas à être sénateur pour avoir de l'argent. Mais, il faut le comprendre aussi parce que il naissent dans des conditions un peu acceptables. Ici, on est dans des conditions de médiocrité, dans des conditions de pauvreté. Et même maintenant, quand on trouve la politique comme ça, tiens, vous imaginez, parce que la politique, c'est quoi? Vous rentrez en politique, vous devenez tout de suite riche, milliardaire. Et vous rentrez en politique, vous approuvez tout de suite. On a vu des gens qui n'étaient pratiquement rien, ils sont rentrés en politique, ils sont devenus millionnaires. Donc, c'est comme ça, en fait. Mais c'est, moi, je pense que il sera difficile au continent africain, peut-être vous allez, on va parler du dossier, il sera difficile au continent africain de se compter, de se faire compter parmi les continents les mieux lotis, parce que ces mentalités-là demeurent toujours.
D'accord. Oui, mais Kofi, finalement, est-ce que nous pouvons dire, ou on aura peut-être l'impression que l'ANC, la FDR et la DMP et ces autres ont pratiquement raison en ne voulant pas s'associer à ces élections, compte tenu alors peut-être alors de ce que Madame Adjamagbo a dénoncé concernant l'achat de conscience?
Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Moi, je ne le sais pas. D'abord, ils font déjà partie de problèmes. Il y a certains qui siègent déjà à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, j'ai toujours dit ceci, et je vais répéter ça aujourd'hui. Ce qu'on nous sert là, cette nouvelle constitution, c'est une salade à mes yeux, et c'est une escroquerie politique de la pire espèce. Parce que comment voulez-vous qu'un Sénat, dont une partie est nommée par le président du Conseil,
20.
C'est, hein, 20,
voilà. Juste pas 20. Qui seront élus par justement les conseillers régionaux et les conseillers municipaux.
Comment voulez-vous que ce Sénat-là puisse servir à quelque chose de bien aux citoyens lambda? Parce que moi, ma préoccupation première, c'est le citoyen lambda. Qu'est-ce que le Togolais peut-être de Saint-Cassé, le Togolais de Glidi, le Togolais de Gléhi, par exemple, à gagner à ce qu'on est en train de nous préparer là. D'abord, nous ne sommes pas impliqués. Ce sont les grands électeurs, comme l'a dit Gabin tout à l'heure. Vous savez, Pascal, le moment doit venir dans ce pays où il faudra balayer ce pays. Sérieusement, balayer ce pays. Enlever tous ces vendeurs d'illusions. Qui sont dans le domaine de la politique. Parce que beaucoup sont là-dedans, mais ne comprennent pas vraiment pourquoi ils se sont dit, bon, je veux faire la politique. Il y a tellement de vendeurs d'illusions, des gens qui se disent, bon, voilà, nous allons au Sénat, mais pas pour servir le peuple, mais pour servir des intérêts. J'avais dit l'autre fois, lorsque je m'insurgeais vis-à-vis de la proposition de Maître Tiassona Traoré, j'avais dit que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, beaucoup de gens se sont dit dans ce pays, bon voilà, j'ai passé de tel nombre d'années dans l'opposition, aujourd'hui il est important que je me trouve une place quelque part pour pouvoir gagner jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est dangereux pour nous. Dans tout ça, nous gagnons quoi? Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que lorsque X ou Y va au Sénat, il va pouvoir mener des débats constructifs, faire des propositions réelles vis-à-vis du gouvernement qui se fera cette bonne volonté-là de l'écouter pour changer véritablement la vie des citoyens togolais? Non. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui se concertent entre eux, qui font du business entre eux, qui se disent des choses. Bon, voilà, quand je serai sénateur, je vais faire ceci. Quand tu seras sénateur, tu me feras ceci. Et je crois que c'est un danger pour nous tous.
Quand on prend le Sénat... Oui.
Je vous ai posé une question à Kofi, à Nani. Je vous ai dit deux petites choses. Par rapport à certains partis que vous avez cités, moi, je ne voudrais pas parler, je vous ai cité aucun parti, je vous ai cité aucun nom. Qui, dans cette opposition togolaise, n'a jamais rien négocié avec ce pouvoir. Qui dans cette opposition togolaise, quel parti dans ce pays-là, dans cette opposition togolaise, n'a jamais négocié ou n'a jamais rencontré les membres du pouvoir dans les nuits profondes pour négocier quoi que ce soit? Il n'y en a pas. Je veux citer aucun nom, mais il n'y en a pas. Donc ça dit quand les gens disent...
Mais est-ce que la négociation même ne fait pas partie de la politique?
La négociation fait partie de la politique, mais c'est-à-dire ici au Togo, quand tu cherches à négocier, on dit que tu es vendu. Mais la deuxième chose, c'est pour répondre un peu à Kofi Annan et aussi à certaines choses. Vous savez, c'est pour ça que je dis aux gens que les gens n'ont pas lu la Constitution de 2024. Parce que quand vous lisez la Constitution, au fait, on a repris certains articles, plusieurs articles de la Constitution de 1992 pour remettre dans la Constitution de 2024. Les gens n'ont pas lu. Par exemple, quand on dit la nomination des 20 par le chef de l'État, mais on n'a rien inventé. C'est l'article 52 de la Constitution de 1992. Dans le même article, on dit 40 heures, c'est-à-dire 2/3 seront élus par les collectivités territoriales et un tiers sera nommé par le président ou désigné par le président de la République. Donc, la Constitution de 2024 n'a rien inventé. Quand vous lisez un peu, le préambule de la Constitution de 1992, c'est plus la même chose que la Constitution de 2024. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, vous n'avez pas lu la Constitution. Lisez peut-être là où on change, c'est au niveau de la désignation du président du Conseil, les termes changent. On parle de président du Conseil, on parle d'un président de la République qui n'aura plus assez de pouvoir. Mais aussi, il y a une troisième partie, qui est la déclaration solennelle des droits des personnes et du citoyen. D'accord. Donc il y a des choses qui se retrouvent exactement dans la Constitution de 1992. Que les gens aillent lire la Constitution de 2024.
D'accord. Oui, Kofi.
Pascal, je suis vraiment désolé. Écoutez, lorsqu'un président de la République élu par le peuple, avec un mandat du peuple, se permet de nommer des gens au Sénat, je pense que ça a plus de sens que lorsqu'un président du Conseil, qui n'a pas de mandat électif, qui n'est pas député, mais qui est président du Conseil parce que le parti est le parti majoritaire au Parlement, est devenu président du Conseil. Hein, si celui-là nomme des gens au Sénat, est-ce que... C'est la même chose que lorsqu'un président de la République, non?
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura pas de légitimité, Gabin?
Oui, vous savez, il faut contextualiser les choses. Parce que la Constitution de 1992 avait prévu un Sénat, certes, mais c'était sous un autre régime. Voilà. Ce n'était pas sous un régime parlementaire. Ici, nous sommes dans un régime parlementaire et les gens doivent avoir quand même le mandat du peuple. Mais si sur 61 députés et 61 sénateurs, 20 sont nommés par celui-là, qui doit être redevable vis-à-vis de ces députés-là. Mm-hmm. Vous ne voyez pas que ça pose problème. Il y a un problème de redevabilité. Et imaginez que moi, je suis ici, puis le chef de l'État me nomme en tant que sénateur. Vous êtes sûr que j'aurai quand même cette force-là devant lui lui dire, non, monsieur le président, ou monsieur le président du Conseil, ce que vous avez fait de temps en temps, ou bien lui demander des comptes, ça ne sera pas possible. Je pense que si on veut implémenter le régime parlementaire dans son entièreté, il va falloir faire les choses comme on le fait sous autres horizons, peut-être en Grande-Bretagne, en Inde, en Chine et autres, ou celui-là même qui est le président.
Le chef de l'État a promis quand même que nous serons une grande démocratie.
Il a promis. Démocratie. Ça, ce sont des promesses. Les promesses politiques ne sont pas contraignantes et n'ont aucune obligation contraignante. Mais il faut faire les choses dans les normes. Si le président de la République a lui-même participé aux élections et que le Parlement le nomme en tant que président du Conseil des ministres, alors là, il a le mandat de la population. Mais imaginez que lui, il est juste le président du parti qui a la majorité et puis il est président du Conseil. Ben, ce sont ses partisans qui sont là-bas. Et la plupart, c'est lui qui les a désignés d'ailleurs au nom de son parti pour participer à ces élections. Donc, toutes ces personnes-là lui sont redevables. Et ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur lui. Ils ne peuvent même pas lui demander des comptes. C'est ça qui pose problème. Et n'oublions pas que dans l'ancienne constitution, la constitution de 92, il y a ce principe de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. Mais, demandez-moi, est-ce qu'une seule fois, le président de la République s'était présenté devant l'Assemblée nationale comme lui intimait la constitution de se présenter au moins une fois devant l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation? Il ne le faisait pas et il n'y avait aucun député qui le rappelait cela.
Mais donc, je pense que l'état de la nation a été présenté une fois.
Juste
fois.
Une fois, oui. En 20
fois.
Ans.
Deux fois.
Bon, si c'est deux fois, en 20 ans, ça ne pose pas de problème. Mais ce que tu dois faire en 20 ans, sérieux? Tu le fais juste deux fois.
Et comme c'était, si tu n'avais pas de compte
ça, on n'appelle pas ça présentation de l'état de la nation. Hein. Il était venu faire un discours. Mais il faut voir ce que Talon fait au Bénin comme présentation de l'état de la nation aux députés. c'est très différent. Les députés posent des questions. Ils parlent, que ce soit de la santé, de l'économie, de la politique, de tout ce qu'il a eu à entreprendre durant toute l'année, devant les députés, et on lui pose des questions. C'est comme ça que ça se fait. Mais si le président vient, parfois il fait juste un discours, on l'applaudit, et puis il repart. Donc, à un moment donné, on a cette culture de diviniser, hein, celui-là qui est le président, et on se dit, bon, on est redevable, si je l'applaudis, il va me donner ceci, il va me donner cela, ou bien il va me maintenir à mon poste. À un moment donné, il va falloir qu'on soit assez sérieux dans la gestion. Moi, tout ce qu'on veut, c'est que notre pays aille bien. On est dans une période aujourd'hui où on est en 2025, donc on doit penser beaucoup plus au développement qu'à cette culture où on divinise quelqu'un, on veut plaire à quelqu'un. Non, on ne doit plus être dans ça. Et je ne suis pas sûr que le président lui-même, il a besoin de ça actuellement. Les juristes qui ont eu élaboré ces tests-là, les tests ne sont pas inamovibles. Il va falloir penser à rechanger quelques articles de ce test-là. Parce que moi, quand je lis et quand je vois les gens qui vont animer cette 5e République-là, les mentalités n'ont véritablement pas changé.
D'accord.
Ce sont les anciens qui sont toujours
d'accord, là. D'accord, Gabin, merci. Fibé, est-ce que vous avez aussi la même impression que, pratiquement, quand on voit certains tests de cette 5e République et aussi les gens qui vont l'animer, finalement, il y aurait un peu de dichotomie?
Non, moi, je ne trouve toujours pas de problème. Parce que c'est une question de volonté. Peut-être, on peut dire que nous avons un président qui est fort, 20 ans au pouvoir. Il y a peut-être les députés. Il y a des députés, il va leur être difficile de lui poser des questions. N'oubliez pas qu'en régime, quand on parle de...
Comment ça leur sera difficile alors
que quand on parle de la tradition du régime parlementaire, le chef du gouvernement, chaque semaine, il se pointe devant les députés pour s'expliquer sur des sujets majeurs de la vie de la nation. Est-ce que le président de la République, lorsqu'on rentrera après le 6 mai dans le régime parlementaire véritablement, est-ce qu'il pourrait se prêter à cet exercice?
C'est ce que la Constitution dit, normalement, on doit se prêter à cet exercice.
Alors, première chose. Deuxième chose. Est-ce que les députés là, ils ont tout d'ailleurs, ils pourraient faire face au président pour lui dire, mais monsieur le président du conseil, en réalité, sur ce sujet, les résultats ne sont pas là. Est-ce qu'ils pourraient le critiquer?
La norme, c'est ça, c'est ce que la norme dit.
Oui, mais ici, quand on voit le président de la République et quand on voit ces députés là, peut-être les gens auront peur. C'est là où moi je dis, en réalité, qu'en réalité, il va falloir que le président de la République explique aux députés ou leur dise simplement que c'est moi, je suis le président du conseil, quand je viens à l'Assemblée ou quand je viens au Parlement, faites votre travail et puis il n'y a pas de problème. Si on arrive à arriver à ce niveau, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on dit par exemple les tests fondamentalement, moi je ne trouve toujours pas de problème par rapport aux tests. En réalité, si on veut construire une démocratie, c'est une question de volonté. Vous imaginez, quand vous lisez le test du début jusqu'à la fin, quand vous voyez le préambule, on parle de démocratie, on parle de démocratie moderne, on parle de gouvernement du peuple par le peuple. Quand vous voyez la déclaration solennelle des droits de l'homme, on parle de liberté d'expression, liberté de manifestation. Donc, pour moi, à ce niveau, il n'y a souvent pas de problème. Maintenant, quand on dit l'article 52 de la Constitution de 1992, qui donne mandat au président de la République de nommer un tiers ou de désigner un tiers des membres des sénateurs, en réalité, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous sommes... Regardez, si aujourd'hui, on veut organiser ces élections sénatoriales, sous la Constitution de 1992... Nous avons le même président. Si c'est le président qui nomme, c'est 20 sénateurs. Quoi qu'il puisse se passer, ces 20 sénateurs redevront ou seront redevables au président de la République. Si nous sommes dans le régime parlementaire, c'est le président du conseil qui nomme, ces 20 sénateurs seront redevables au président. Moi, je pense que c'est une question de forme. Sinon, au fond, il n'y a souvent pas de problème.
Une question. Mais, est-ce que tu es sûr que ces 20 sénateurs-là pourront faire un vote de défiance vis-à-vis du président du conseil?
Est-ce que si nous trouvons dans la Constitution de 1992, est-ce qu'ils pourront faire ça? Si c'est le président de la République. Si nous trouvons dans la Constitution de 2024, est-ce qu'ils pourront faire ça? En réalité, moi je dis, ici quand vous avez, moi je le dis, excusez-moi de le dire une seconde, quand vous avez un chef d'État qui a vu beaucoup de choses, qui a eu à rencontrer des gens, qui a fait des voyages pas possibles aujourd'hui. Mais ce chef d'État, arrivé à un moment donné, psychologiquement, il pèse sur vous quand vous l'avez en face de vous.
Ça ne veut rien dire.
Non, une seconde. Il pèse sur vous. Quand pour une petite anecdote, moi je me rappelle quand on était encore très jeune, il y avait un ami qui me disait qu'il n'aimait pas du tout Yadema. qui le détestait, que le jeu va le voir là, et Yadema lui-même va voir. Mais il m'a dit qu'en réalité, le jour où il a vu Yadema, il l'avait tellement admiré, il ne faisait que l'applaudir. Un chef d'État demeure un chef d'État.
Il n'était pas convaincu. Monsieur Kofi, c'est vrai que Fimé annonçait tout de suite que, ben oui, il y a peut-être psychologiquement, il y a des gens quand même qui pourront avoir peur lors du chef de l'État. Mais quand on parle alors d'une institution, c'est des hommes forts aussi, hein. Des hommes forts qui animent alors des institutions et avant que les institutions ne soient fortes. Et puis là, maintenant, quand on parle alors d'un régime parlementaire, il faudrait quand même qu'il y ait cette interpellation, même d'ailleurs des gouvernants, des gens quand même qui sont aux affaires, et que l'Assemblée nationale joue bien ce rôle.
Pascal, quand on me dit qu'un dirigeant a cette carrure-là de faire peur parce qu'il a passé des années au pouvoir, il a vu beaucoup de choses, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que le dirigeant, c'est qui? C'est d'abord le serviteur. Et quand vous êtes dirigeant, vous l'êtes pour un temps. Après, vous passez, un autre viendra. Et le choix du dirigeant peut être porté sur n'importe qui. Vous pouvez être dirigeant aujourd'hui, quelqu'un de Dangpen qui n'a peut-être jamais vu Lomé peut devenir dirigeant. Alors, c'est une question du choix de l'être suprême. C'est lui qui décide en fait, qui dirige. Alors, si vous vous dites, moi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai été dirigeant pendant des années, alors ma carrière seule doit faire peur, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi.
D'accord, ok. Alors, d'abord, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à cette intervention alors du ministre Robert Doucet, bien sûr, tout récemment. C'est lors du symposium sur les 140 ans, lors de la conférence de Berlin. Et conférence de Berlin, on se souvient même d'ailleurs de ce qui a constitué même d'ailleurs le partage de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères déclarer que notre souci aujourd'hui, c'est que l'Afrique soit respectée comme continent. Nous ne voulons plus que quelqu'un nous voie d'en haut. Alors finalement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est toujours pas respectée?
Non, tu sais, on est trop dans les déclarations en Afrique. On est trop dans les déclarations, on veut se faire voir et on oublie même l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler. Aujourd'hui, quand les États-Unis ont supprimé l'USAID, les Africains sont en train de crier que Donald Trump est mauvais. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pourquoi il a supprimé ça? Les antiretroviraux ne vont plus venir en Afrique. Oh, Donald Trump est mauvais. C'est ça l'Africain. Mais au même moment, on demande du respect. De quel respect parlons-nous? Entre-temps, le ministre Doucet avait crié. On est fatigué. Vous savez, cette histoire de panafricanisme, les gens sont en train de tronquer l'histoire du panafricanisme. Ce n'est pas comme ça. Il faut être nationaliste avant de penser être panafricaniste. Tu n'es même pas encore nationaliste. Est-ce que véritablement, tu as l'amour de ton pays? Tu as le patriotisme en toi? Tu aimes véritablement tes citoyens? Qu'est-ce que tu leur apportes? Le secteur dans lequel on t'a nominé? Quels sont les résultats probants que tu peux tenir aujourd'hui devant la population? Voilà mon peuple, j'ai fait tant pour vous. Donc, à un moment donné, cette déclaration tapageuse qu'on fait, les Blancs, ils écoutent, mais au moment, ils rigolent. Nos ONG ici, qui les alimentent? Ce sont les petites cotisations des Blancs. Des enfants qui sont à l'école et autres qui cotisent de l'argent pour venir pour qu'on construise de simples latrines pour
les populations. Même le ministre disait que mais nous n'avons plus besoin d'aide.
Eh bien, non, attendez. On est dans un pays où les gens, parfois, sont obligés de demander des prêts avant de payer leurs fonctionnaires. Vous voyez? Donc, à un moment donné, si moi je suis un blanc et que peut-être ce sont mes petits-enfants qui vont cotiser des 10 euros, des 5 euros pour vous, pour que vous puissiez avoir juste des latrines dans vos villages, vous me parlez de quel respect? Comment est-ce que je vais vous respecter? Je ne peux pas vous respecter. Le respect, c'est premièrement ce qu'on fait par soi-même. On se respecte et ensuite, les autres vont te respecter. D'accord. Pas des déclarations tapageuses. Non, moi, je veux qu'on nous respecte. On va vous respecter par rapport à quoi? Si toi-même, tu laisses les gens s'appauvrir dans ton pays, mais au même moment, tu portes un costume de 500 euros, 2000 euros, 2400 euros pour aller t'asseoir devant les Blancs. Ça veut dire quoi tout ça?
D'accord, ok. Oui, mais Firmin, quand on prend cette déclaration alors du ministre Robert Doucet, est-ce que ça veut dire que c'est une déclaration qui est en déphasage avec la réalité?
Non, est-ce que c'est en déphasage? Moi, je me demande qui lui a demandé de faire ça. Non, moi, je sais qui lui a demandé de faire ça. Parce que Robert Doucet, qui a écrit des livres, un grand philosophe, un intelligent, mais c'est-à-dire, pourquoi il fait ça? Parce qu'en réalité, ça ne nous porte pas assez d'avantages. Pourquoi il fait ça? Regardez par exemple, quand il demande une relecture, les gens ont partagé l'Afrique avec des frontières. Et vous leur demandez, vous remédiez encore à eux. Donc vous voyez ça un peu, hein. Dans les frontières là, peut-être on va glisser ça un peu. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez ça un peu, hein. C'est ça en fait. Les gens partagent l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Robert, tu sais, moi, je n'ai toujours pas à le comprendre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? En réalité, on n'a pas ce niveau-là. La meilleure des choses, c'est de revenir et de se poser des questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire nos pays, nos nations? Parce que les Blancs, ils se moquent de nous. Regardez ce qui se passe au niveau de Goma. Regardez où il y a déjà des Africains qui pillent. Et les Occidentaux aussi en profitent pour piller. Regardez ce qui se passe dans tous les coins du continent. Les Blancs, vous savez pourquoi ils ne nous respectent pas? Ils savent qu'en réalité, nous sommes corrompus, au fait. Nous sommes des voleurs.
Nous ne sommes pas sérieux.
Nous ne sommes pas sérieux. Nous n'aimons pas nos pays. Il suffit juste d'aller voir un Paul Kagame. Il va armer des rebelles. Il les envoie dans l'est de la RDC. On tue des gens. On pille la zone. Et puis c'est fini. Il est là. On va dans l'autre côté. Et puis un Tshisekedi qui est là, qui crie. Mironamlo. Et puis des gens, en fait. Quand on voit tout ça, là, les gens ne nous respectent pas. Vous voyez pas ce qui s'est passé au Sénégal? Quand Donald Trump a dit, je coupe ces 500 millions de l'été qui s'est bas et l'été pied, le Sénégal. Ils ont commencé par crier, oh, Dieu m'a fait crier, il n'y a pas longtemps, souveraineté. Vous êtes souverain où? On n'a rien. Moi, je dis, quand les gens disent, la souveraineté du continent, la souveraineté de nos pays, on n'est pas souverain. Quand Robert Doucet parle, regardez ce qu'il dit. C'est notre ministre, c'est notre serviteur. Ce qu'il dit là est grave. On n'est pas souverain. On n'est pas souverain. Il faut qu'on soit réaliste d'abord. On n'a rien pour souverain. Vous voyez par exemple le marché de ce côté. C'est pas votre grand-papa qui a mis l'argent dedans. Ce sont les Allemands qui ont mis l'argent dedans.
Ce sont les Allemands qui ont mis l'argent.
Vous voyez, il y a assez de projets que les Occidentaux financent au Togo. Si on veut parler de souveraineté, ils vont retirer tous ces projets. Je pense peut-être qu'il y aura sur le monde. D'accord. Parce que des gens vont mourir de faim.
D'accord, déjà, merci. Est-ce que l'Afrique n'a pas besoin d'être respectée aujourd'hui?
Pascal, moi je vais être bref. Vous savez, le respect, ce n'est pas parce que vous demandez à une personne de vous respecter que la personne va vous respecter. Le respect, c'est...
Ben, ça se mérite.
Voilà, c'est une chose qu'on doit faire pour exiger le respect de l'autre. Le comportement que l'on a, le sérieux que l'on a dans le travail, c'est ça qui demande à l'autre, sans que vous ne vous exprimiez, de vous respecter. Les Chinois n'ont pas eu besoin de faire du bruit avant de se faire respecter.
Exactement.
Remettons-nous en question, mettons-nous au travail, et je pense qu'on n'aura plus besoin de demander aux Blancs de nous respecter.
D'accord.
Merci.
Ok, merci, chers confrères. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et je sais qu'il y a des auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous et se prononcer sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Et c'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 63 75. Ils peuvent également réagir sur notre numéro WhatsApp. C'est le 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour Patrick, comment vous allez?
Ça va bien, vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu.
Je salue les autres. Antakol est toujours là?
Oui, Antakol est toujours là.
D'accord. Alors Pascal, permets-moi de féliciter cette dame parce que je me rappelle dans les années précédentes. Il y a cette voix-là, il y a la voix d'Afia Mala, la voix de Fifi Rafiatou. Toutes ces voix-là nous manquent aujourd'hui. Sans te mentir, Pascal, c'était la vraie musique. Quand on écoutait Gambé, Poyo, Kirija, Esbir, tout ça-là, vous sentez même, c'est-à-dire comment la musique fonctionnait même. Ce n'est pas aujourd'hui où on va te dire « Ata Gubin ». Non, ce n'est pas ça. Le message, c'est le fond, ce que la musique véhicule, le message, ça veut ça. Vraiment, c'est voilà le moment que je continue pas à féliciter la dame là.
D'accord, merci.
Alors, pour revenir sur le débat proprement dit, Pascal, tu as posé une question vraiment très pertinente. Tu demandais à savoir si l'Afrique ne doit pas être respectée. Pascal, écoute-moi, je te donne. C'est des exemples terre à terre. tu es quelque part, c'est-à-dire dans un quartier, tu es dans ta maison, et tes cohabitants. Écoute, chaque fois, c'est toi qui sors, ou bien ta femme, tes enfants, qui sortent, qui témoignent. Pensez-vous qu'on va vous respecter, vous êtes dans le même quartier, pensez-vous qu'on va vous respecter, celui qui ne sort pas, celui qui ne demande pas, le monsieur, le X, c'est-à-dire qui sort, qui va au boulot, qui s'occupe de sa famille, et le Y, qui ne fait rien, chaque fois, c'est lui qui sort, qui témoigne, qui demande les choses, qui serait respecté entre les deux. Donc, je pense que le choix est clair, vous me comprenez. Si l'Afrique veut qu'on le respecte, effectivement, elle doit se respecter elle-même, avoir un développement croissant pour que ce pays-là puisse le respecter aussi. Bonne émission.
D'accord, merci beaucoup Patrick pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, Gérard Sélassié.
C'est Jean?
Gérard Sélassié.
Ah, Gérard Sélassié. Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Huiti.
Huiti, allez-y.
Aujourd'hui, je suis content que vous soyez tous unanimes sur ce que l'Afrique doit travailler. Il faut arrêter cette histoire de panafricanisme tronqué là. Moi, je ne comprends pas. Il faut travailler. Et la dernière fois, quand Donald Trump a coupé le truc de USAID, vous êtes revenu sur ça. Moi, j'ai entendu des gens dire des choses. Vraiment, quand on se réclame de Africains tout fiers, et après on prend tout le temps pour danser et on ne travaille pas, après on dit qu'on est panafricaniste, c'est ça qui va faire avancer les choses? Merci. Je dis bonjour à Amta.
D'accord, je remercie. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
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 Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, je vous écoute. Bonjour.
Non, je ne sais pas si c'est Canal FM.
Bien sûr, vous êtes en direct.
Je voudrais apprécier un journaliste qui parle de nationalisme. Vraiment, il a bien parlé. Pour être nationaliste avant d'être panafricain. Bon, je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'écoutez.
Oui, mais on vous écoute. Peut-être que vous n'avez pas de retour. C'est ce que nous avons compris. Ok, merci, mon cher ami. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Nig.
Oui, Monsieur Nig.
Oui.
Allez-y.
Bon, en fait, je veux revenir sur les propos de Monsieur Doucet. Il n'y a pas longtemps, il avait fait une déclaration qui a fait des tapas. Il n'a pas tiré de leçons. Et il continue d'aller dans un sens qui va assombrer son nom. Bon, on dit qu'il est professeur, non? Mais il n'a qu'à voir son niveau et pour pouvoir aller dans un sens plus clair. Aujourd'hui, il parle du respect. De quel respect il parle? Celui qui a la main en bas, de quel respect? C'est ça, mais certains journalistes ont dit. En Afrique, on ne travaille pas. On est là à commander. Et on veut qu'on nous respecte. Aujourd'hui, si c'est l'Asie, les États-Unis, l'Europe, tout le monde se bat. Tout le monde évolue. Mais l'Afrique est sur place. Mais seulement, on a la grande gueule. Nous sommes des panafricanistes. Nous ne voulons plus le blanc. Simple vaccin contre le panique. Depuis des années, l'Afrique ne peut pas, mais quand même, il faut que ces dirigeants, quand même, s'ils veulent faire des déclarations, ils n'ont qu'à réfléchir mille fois avant de faire sortir des mots. Merci.
Merci, Monsieur Nipo, votre intervention. 90-86-35-35-91-36-315. Autre auditeur, allô?
Bonjour, Pascal.
Oui, Basile, bonjour.
Ah, salut vos collègues.
Oui.
Ils sont toujours dans leur logique. J'ai dit à mes enfants, à cause de quelques-uns parmi vous, qui ne vont pas faire le journalisme, et parce que voir ce qui saute à l'œil, et quand tu viens, tu dis autre chose, ce n'est pas bien. Oui, ça, c'est Basile. Une entrée parenthèse que j'ai eu à passer comme ça.
Oui, mais Basile.
Ouais,
si bon, vous l'avez, Basile, si vous l'avez déjà dit à votre enfant, point besoin de nous le dire.
Ouais, je vais vous dire ça.
Non, on n'en a pas besoin, Basile. Allez-y.
D'accord. OK. Pour le sujet même, le professeur Robert Doucet, moi, je lui ai écrit quand il a dit que quoi que quelqu'un vient dans ma maison, il m'a volé, et que quand je m'en vais, je veux reprendre, il dit que je n'ai pas un endroit où. Moi, je lui ai écrit un commentaire, c'est plus de 1000 vues, et peut-être de 1000 commentaires. Pourquoi il se fourvoie dans ce genre de choses? Regardez, vous parlez de AES que nous, on va rentrer dans AES. AES, c'est vous, vous régime constat que les gens de AES ont enlevé. Pourquoi est-ce que toi qui vas aller t'habiter à eux? Ça, je ne comprends pas. Il faut qu'on se respecte un peu là. Merci.
Merci Basile pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce vendredi. Allô.
Oui, bonjour Monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
C'est Monsieur Maki depuis Zanguera.
Ah Monsieur Maki.
Oui.
Allez-y.
Au fait, c'est par rapport à certains développements que j'ai écoutés dans votre radio tout à l'heure. Par rapport aux élections sénatoriales, vous savez, après avoir rendu le pays comme encore un parti unique, il y a longtemps je disais que tel nous évoluons dans notre politique là, on risque encore de tomber dans un parti unique. On a interdit aux gens d'accéder au pays, à l'intérieur du pays, sensibiliser leurs partisans, leurs sympathisants et autres. Et après on file à l'élection régionale et législative. On rafle tout. Des fois, lorsque il y a un de vos journalistes là-bas, lorsqu'il parle, c'est comme il ne dit pas au pays, donne des exemples des États-Unis, de l'Europe, tout ça là. Moi, je me dis, mais est-ce que firmé t'es quoi au Togo? Alors, par rapport à M. Robert Doucet, ce qu'ils font aux Togolais, et ils condamnent les Européens, ça c'est une fuite en avant. Donc, je vous en prie, si c'est cette élection sénatoriale, avec parti unique, RPT Unir, qui va nous aider à tracer les routes, les hôpitaux, qui va aider au Togo à se développer et trouver des solutions à tous nos problèmes. Bientôt, la pluie va commencer et les mêmes problèmes vont surgir. Je vous en prie, Foy et ses acolytes, ayez pitié de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Merci beaucoup, notre ami Maké, qui nous a appelé alors depuis Zanguera. Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, grand-père, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, et chez vous?
Ça va aussi. Votre nom c'est?
Benoît Dagoué.
Ah, Benoît Dagoué. Allez-y, Benoît.
Bon, moi je veux, vous savez, c'est vrai, nous les Africains même, nous ne sommes pas conscients. Nous ne savons pas qui nous sommes, la richesse de l'Afrique. Quand vous prenez, vous parlez du respect. C'est vrai, nous-mêmes là, comme il y a eu un séisme au Maroc, l'autre fois, les pays occidentaux ont demandé de venir aider le Maroc, mais le Maroc a refusé. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas en charge, nous ne sommes pas solidaires. Ici au Togo, il y a des gens qui s'insultent, les gens s'encaparent. Il y a que des divisions. C'est quelque chose le peu il y a des mains à vue avant de dire si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Si nous savons cultiver la solidarité, pas seulement boire le bleu ou le blanc dans toutes choses, ce serait un Togo meilleur. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, Kamel Afet?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Thierry.
Monsieur Thierry.
Je vous appelle depuis Agoué.
Depuis Agoué, allez-y.
Premièrement, je vous félicite pour le métier que vous avez choisi.
Merci beaucoup.
Sauf que quelqu'un d'entre vous nous... Moi, personnellement, ça me peine encore d'écouter les débats, mais je m'efforce quand même.
Mais merci de vous efforcer pour écouter les débats. Thierry?
Oui, monsieur.
Oui, je voudrais votre point de vue sur les sujets débattus. C'est juste ce qui m'intéresse aussi.
Ça va concerner premièrement le truc, la 4e ou bien 5e république. On dit dans une république que celui qui est censé être le guide, le chef du pays, ne soit pas élu. Vous imaginez? Et certains prétendent défendre ça. Un pays tout entier. Le Togo n'est pas un régime, n'est pas un roi. À ce que je ne sache. Et notre dirigeant, celui qui aura tous les pouvoirs, de décider de ce que sera nos hôpitaux et les écoles, nos routes, ne sera pas élu par le peuple qui est censé diriger, j'ai de la peine pour les intellectuels togolais. J'ai vraiment de la peine. Je me demande à quoi sert l'école au Togo.
D'accord. Merci Thierry. Ce qui est sûr, vous parlez français, ça veut dire que vous avez été à l'école. Ça sert à quelque chose, Thierry. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Mauto, comment vous allez?
Oui, bonjour.
Oui,
le plateau.
Oui, allez-y.
Ma question à monsieur Fimin, il fait la situation à la sécurité. Moi, j'ai l'impression que les gens n'ont plus la notion d'une république. Comment on gère la chose publique, quoi? Ça se lit au sommet de l'État. Parce que sur votre radio, moi j'ai écouté hier quelqu'un qui disait que un président peut fêter la mort de son papa à n'importe quel veut. Même il peut en faire une date fériée. Je me perds quoi. Pour notre professeur, monsieur Affaires étrangères là, pardon, c'est trop de l'attenance, hein. C'est un monsieur qui est très intellectuel. Mais. Il dira quoi. Merci, bonne
émission. Merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur en ligne. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Voilà le dernier auditeur qui se signale. Allô, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Oui, bonjour Didier.
Oui, comment ça va, Fénin?
Ça va, allez-y.
Au moins, je pourrais dire à M. Fumier que dans l'ancienne constitution, au moins, c'est nous qui élisons le président avant qu'il ne nomme les sénateurs. Mais il faut aussi rappeler que quand on dit que 20, c'est une forme de manipulation. Dites-nous le pourcentage que le président nomme dans les sénateurs. Quand on dit 20, c'est comme les gens qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas en train de penser qu'il y a 100 électeurs, il y a 100 sénateurs, le président nomme 20. Dites le pourcentage que le président nomme, le tiers. Est-ce normal? Pour finir là, pour le monsieur Dussé, il n'est pas aussi bête. Hein. C'est un professeur, il sait ce qu'il est en train de faire, le jeu qu'il est en train de jouer. Mais malheureusement, nous connaissons ce que sont les professeurs Togo. La preuve, c'est qu'ils ont démontré la dernière fois à l'université pour le cas de ce président a demandé. Alors qu'il est en train de jouer, c'est pour faire du chantage à la CDA, où il n'est pas aussi bête pour le médical à la radio, dans un journal. Vous connaissez aussi le ton de son journal, les gens de. C'est le journal des acolytes de. Comment ça s'appelle? L'ancien journal de RFI, là. Mais ce film, il s'appelle comment?
Pardon?
L'ancien journaliste camerounais de RFI Nationaire.
Alain Foucault, vous voulez dire?
Alain Foucault, oui, Alain Foucault. Les acolytes d'Alain Foucault. Donc, là où il a fait l'interview, il n'est pas aussi bête. Il sait ce qu'il est en train de faire. Hein. Ils ne seront pas naïfs aussi.
Mais disait l'interview, c'est plutôt à Deutsche Welle.
Oui. Non, c'est qu'il a fait avec le Deutsche, là.
Non,
c'est celui qui l'a fait à tuer, là.
Oui, mais non, je parlais, enfin, puisque pour son intervention, entre-temps, c'était à Voice Africa.
Il a fait aussi à tuer le Camerounais.
Oui, c'était sur Voice Africa.
Oui, c'est ça que je dis.
Oui, mais pour cette fois-ci. Oui. Oui,
ce sont les acolytes. C'est les mêmes qui ont été le même mandat.
D'accord, c'est votre opinion. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
Donc, il n'est pas aussi bête. Il sait ce qu'il entend. Il sait le jeu qu'il entend. Il entend de faire la CDA.
D'accord.
Vous mettez votre bouche dans la nouvelle commission.
Merci.
De la CDA, même malheureusement, pour un professeur. C'est un professeur de son état qui avait écrit l'Afrique malade de ses dirigeants. Donc, on lui a dit l'Afrique malade de ses professeurs.
Merci beaucoup, Didier. Didier, merci. Merci pour votre intervention. Et, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce vendredi. Et finalement, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité. Quoi de plus normal, puisque c'est le principe de l'émission. Votre réaction?
Non, moi, ma réaction est très simple. Moi, vous savez, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que par rapport aux constitutions, moi, c'est la constitution fait partie des sujets qui me passionnent, moi. Et quand je parle de constitution, moi, je fais cet effort-là de me détacher de toute considération politique. Moi, ça me passionne. Vous savez, quand vous lisez un peu la constitution de la Russie, on parle de régime semi-présidentiel, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Donc, ce que moi, je demande souvent aux chefs d'État, c'est que, ou à nos États, c'est de prendre un peu ou de s'inspirer un peu de ce qui est écrit ou utilisé ailleurs et de l'adapter à nos réalités. Et j'ai toujours dit que ceux-là qui ou l'État aujourd'hui a encore la possibilité d'adapter cette constitution du régime parlementaire à nos réalités. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, quand on dit Fonia Singwe n'a pas été élu, mais il va être chef d'un gouvernement, est-ce que quelqu'un va me dire que Sylvanus Olympio, il a été une fois élu dans sa vie? Sylvanus, ce que je dis est sérieux. Sylvanus Olympio, quand on organisait les élections de 1958, il était en prison. Il était déchu de ses droits civils et politiques. Mais après les élections, on l'a sorti de prison et on l'a mis à la tête d'un gouvernement alors qu'il n'avait aucune légitimité populaire. Les gens n'avaient même pas vu son affiche sur peut-être les ou sa photo sur les affiches. La deuxième chose, quand il est devenu président de la République, il était chef de gouvernement, c'est-à-dire président du Conseil à l'époque, c'est parce que c'était un régime parlementaire. Il est devenu président de la République. Avec quoi? Avec une simple ordonnance que lui-même il a signée. Vous imaginez ça? On devient président de la République par pure ordonnance. Est-ce qu'il a été élu? Mais il n'était pas élu. C'est lui-même qui s'est proclamé, autoproclamé président de la République. Il avait la possibilité de nommer un premier ministre. Il avait la possibilité de dissoudre l'Assemblée alors qu'il n'avait aucune légitimité populaire. Moi, je dis simplement que quand moi je fais un petit détachement, je me dis, quand vous lisez tout le texte, vous vous rendez compte qu'en réalité, ceux qui ont rédigé la constitution de 2024 se sont inspirés un peu de plusieurs histoires. Peut-être ils ont pris ça un peu en Grande-Bretagne, ils ont pris ça un peu, ils se sont inspirés peut-être de l'histoire politique du Togo au lendemain des indépendances.
De l'Inde.
Ils ont vu tout. Mais ils ne sont pas cons. Ils n'ont rien inventé. Quand vous lisez la constitution de 2024, on n'a rien inventé. On a pris ça un peu au Togo, dans les années 60, on a pris ça un peu de l'Inde, on a pris ça un peu de la Grande-Bretagne, et c'est ça qu'on a mis, c'est tout. Mais ils n'ont rien inventé.
D'accord. Oui, Gabé.
Oui, bon, j'aimerais un peu recadrer les choses, parce que quand on parle de Sylvanus Olympio, c'est quand même une figure emblématique du Togo. On ne peut pas en parler comme... comme si c'était une personne lambda. Sylvanus Olympio, il a participé aux élections et même s'il était en prison, c'est sa figure qui a fait en sorte que les gens ont voté. Et avant qu'il ne devienne président, normalement c'était Anani Santos qui avait participé aux élections.
Tout
c'était lui qui voulait être, qui pouvait être élu. Mais lui-même, il a dit et Tam Nananié Clodona Koko. Donc il a rappelé Sylvanus qui était en ce moment-là en fuite au Bénin. C'était lui qui était revenu, puis il a pris la tête du pays. Vous savez, ce pays-là, il y a eu... C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais il y a tellement de dates qui nous divisent. Faisons en sorte qu'on puisse se rassembler autour d'un idéal pour que nous puissions amener notre pays à bon port. Parce que déjà, le 13 janvier, on est divisé sur ça. Le 24 janvier, il y a des gens qui sont contre. Le 5 février, la fois dernière, il y a encore une division beaucoup plus profonde parce que beaucoup de personnes se sont senties, voilà, par le biais de cette colloque, dans l'idée de qui est père de la nation, qui est père de l'indépendance et tout.
Il y a tellement de divisions.
Le 27 avril aussi, il y a une division parce qu'il y a certains qui fêtent et puis il y a d'autres qui sont dans la nature. Beaucoup de Togolais ne se sentent pas véritablement concernés par ces fêtes-là. Donc, à un moment donné, il va falloir que le chef de l'État, puisqu'il prône beaucoup plus la réconciliation, qu'il agisse beaucoup plus dans ce sens-là pour que dans les années à venir, on ne puisse pas encore assister à cette guéguerre où chacun dit non, voilà, c'est Sylvanus Olympio, voilà, tant. Cette division-là, ce sont eux-mêmes qui l'avaient créée. Et puis l'histoire même, c'est un peu tronquée parce que Sylvanus Olympio, quand les gens disent non, il voulait créer les Vélandes et tout, moi ça me fait rire parce que c'était quelqu'un qui avait créé le CUIT, Comité de l'Unité Togolaise. Il a parlé de l'Unité Togolaise et non de l'Unité des Évêques. Au même moment, il y avait certains qui avaient créé l'UCPN, l'Union des Chefs et Populations du Nord, donc à un moment donné. Faisons en sorte que les populations se sentent concernées. Mmh. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les Togolais eux-mêmes, on s'est entremêlés. Moi, je vais au Nord, je me sens très bien. Les Nordistes, ils viennent d'ici, ils se sentent très bien. On s'est mariés dans les familles.
Merci beaucoup.
Voilà,
merci. Oui, Kofi.
Pascal, moi, je n'aimerais pas revenir sur la gravité des propos de l'évangéliste de la 5e République. Moi, j'ai juste une doléance à faire. J'aimerais demander au gouvernement de tout faire pour mettre en place des spots publicitaires de sensibilisation pour expliquer aux citoyens lambda ce que c'est qu'un sénateur, le rôle qu'il a à jouer au sein du nouveau Sénat.
D'accord.
Dans toutes les langues, pour que chaque Togolais puisse comprendre ce
D'accord.
que c'est.
On termine cette émission sur la douce voix alors de Antakol. Antakol, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin?
Je vais me permettre juste de dire que il y a une chanson qui m'est venue à l'esprit. L'Éternel bénisse le Togo. quand on chante cette chanson-là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et ce que je voudrais dire ici, c'est que le cet éternel-là commence à toucher le cœur de chaque Togolais. Et de mettre vraiment de l'amour dans les cœurs. Et de mettre cette sensibilité, d'être patriotique. Quand on aime sa patrie, je pense que tous ces problèmes-là, ou tout ce dont on parle là, c'est réglé d'office. Parce que c'est l'amour qui va travailler pour que chaque Togolais, chaque Togolaise puisse se retrouver à l'aise dans le territoire que l'Éternel nous a donné.
D'accord, merci beaucoup Antakol d'être passé alors dans cette émission, ça fait plaisir de vous avoir. Il y a des gens notamment Patrick qui a la nostalgie de vos chansons et donc je pense que très bientôt vous serez là pour encore d'autres activités à Lomé. Vous en avez parlé dans cette émission. Merci beaucoup Antakol d'être
merci,
passé.
Merci de me recevoir.
Justement, merci à Firmet Ekou Agbo d'être passé dans cette émission.
Merci
Gabin Diarou. Merci à toi d'être passé dans cette émission. Kofi Annani, merci d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos contributions à cette émission. Grand merci à vous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.